Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. N'avez-vous pas entendu parler de ce démon qui, dans la clarté de midi, alluma une lanterne, se précipita au marché et cria sans discontinuer « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Étant donné qu'il y avait là justement beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, il déchaîna un énorme éclat de rire. « S'est-il donc perdu ?» disait l'un. « S'est-il égaré comme un enfant ?» disait l'autre. « Ou bien s'est-il caché ? A-t-il peur de nous ? S'est-il embarqué ou a-t-il émigré ?» Ainsi criait-il en riant dans une grande pagaille. Le démon se précipita au milieu d'eux et les transperça du regard. « Où est passé Dieu ? » pensa-t-il. « Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous sommes tous ses assassins. »
Ne faut-il pas allumer des lanternes à midi ? N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ensevelissent Dieu ? Ne sentons-nous rien encore de la décomposition divine ? Les dieux aussi se décomposent. Dieu est mort. Dieu demeure mort. Et nous l'avons tué. Comment nous consolerons-nous, nous, assassins entre les assassins ? Ce que le monde possédait jusqu'alors de plus saint et de plus puissant, nos couteaux l'ont vidé de son sang. Qui nous lavera de ce sang ?
Bonjour Dorian Astor.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Je vous accueille depuis là où vous vous trouvez, c'est-à-dire depuis Berlin.
Oui, exactement.
Voilà, donc nous allons discuter ensemble malgré la distance, grâce à ce duplex qui nous permet de commenter ensemble ce texte de Nietzsche qui a ouvert l'émission, le paragraphe 125 du Gai Savoir. C'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions sur le Gai Savoir. Et on commence avec cette nouvelle. Il faut attendre quelques pages avant de l'apprendre, même si Nietzsche nous a donné quelques éléments qui permettaient de penser que c'était le cas déjà avant ce livre 3. Dieu est mort, paraît-il. Alors est-ce que pour Nietzsche, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Ben, écoutez, on n'en sait rien encore, à vrai dire. Et ce n'est pas une réponse de Normand que je vous fais.
Oui, c'est ça.
C'est Nietzsche qui fait une réponse de Normand. Si vous regardez bien ce qui se passe dans le Gai Savoir, d'abord, ce qui se passe dans ce paragraphe 125, d'abord, il y a, je crois, une vingtaine de points d'interrogation. Le démon pose toute une série de questions absolument décisives qui doivent être posées à la suite de l'annonce de la mort de Dieu. Ensuite, à la fin de ce paragraphe, le démon se rend compte qu'il est arrivé trop tôt, c'est-à-dire que cette nouvelle n'est pas encore audible, elle n'est pas encore compréhensible, ce qui veut dire qu'elle n'est pas interprétable pour l'instant.
Il annonce trop tôt la mort de Dieu, hein, c'est ce qu'il dit, je viens trop tôt, ce n'est pas encore mon heure, cet événement formidable est encore en route et voyage, il n'est pas encore arrivé jusqu'aux oreilles des hommes, c'est son
constat. Voilà, donc il ne peut pas être encore interprété, donc ça ce sera la tâche de Nietzsche et d'abord du Gai Savoir de savoir si c'est une bonne nouvelle ou non. Et on a en fait un indice un peu plus loin, au paragraphe 153, qui s'appelle Homo Poeta, donc l'homme poète, et qui est un jeu, le jeu du narrateur est vraiment Nietzsche, puisque il s'agit du poète du Gai Savoir, et qui dit au fond, voilà, je suis en train d'écrire une tragédie. Dans les trois premiers actes, j'ai noué la morale à l'existence, de telle manière que seul un dieu, peut-être Dionysos, Nietzsche ne le cite pas, pourrait dénouer ce lien entre morale et existence. Mmh. Et il dit ensuite, à l'acte 4, j'ai tué tous les dieux. J'ai tué tous les dieux. Et il pose une question, que devrais-je écrire pour l'acte 5? Dois-je donner une issue tragique ou une issue comique à cette mort de dieu ou des dieux dans ce cas?
Donc lui-même pose la question.
Lui-même se pose la question, ou fin de la poser. Ouais. En fait, non, il se pose vraiment la question, pourquoi? Parce qu'il va faire deux choix. Il fait un premier choix dans le paragraphe 342, qui est le dernier du livre 4, c'est-à-dire du Gai Savoir tel qu'il se présentait en 1882. Je crois que vous avez déjà parlé de cette genèse.
Pour mémoire, le Gai Savoir paraît en 1882 avec quatre livres qui composent le texte du Gai Savoir, et le cinquième livre sera publié 5 ans plus tard, en 1887.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? À la fin du livre 4, donc de la version de 1882, on a donc ce dernier paragraphe, 342, qui est quand même intitulé « Incipit tragoedia », que commence la tragédie. Or, cette tragédie, c'est très exactement le récit du déclin de Zarathoustra. Zarathoustra qui est annoncé dans le Gai Savoir et qui sera, on le sait, l'œuvre suivante de Nietzsche. Que fait Nietzsche 5 ans plus tard? Il écrit, d'abord il écrit une nouvelle préface, la préface à la seconde édition, qui s'appelle « Incipit parodia », que commence la parodie. C'est-à-dire qu'en 5 ans, il a donné une autre réponse, une réponse donc comique ou parodique, qui vient après la réponse tragique de Zarathoustra. Et comment en parle-t-il? C'est là qu'on comprend ce que veut dire le Gai Savoir, et on peut se reporter au paragraphe 343, qui ouvre le livre 5, donc, de 1887, et qui est intitulé « Ce qui fait notre gaieté d'esprit ». En quoi avons-nous un Gai Savoir? Elle dit au fond, voilà, depuis la mort de Dieu, annoncée précédemment, nous avons la possibilité d'un Gai Savoir, de cette Heiterkeit, hein, cette gaieté d'esprit, cette belle humeur, suivant comment on le traduit, et qui est vraiment l'humeur fondamentale de l'esprit libre. Et Nietzsche dit, l'homme de connaissance prend le large, et il n'y a eu jamais encore pareil grand large. On reviendra peut-être sur toutes ces images de prendre la mer, l'explorateur, je crois que vous avez parlé de Christophe Colomb déjà. En tout cas, voilà, la mort de Dieu ouvre cette possibilité d'un Gai Savoir, mais au fond, Nietzsche ne le dit que beaucoup plus tard, et entre-temps, il aura fallu passer par toute la démarche, tout le déclin et tout l'enseignement de Zarathoustra.
Nous l'avons tué, dit le texte, dit le démon qui annonce la mort de Dieu dans la clarté de midi, qui pourtant a une lanterne, hein, c'est peut-être ça qui le rend démon. Celui qui vient annoncer la mort de Dieu dit, bah, finalement, nous l'avons tué, vous et moi, nous sommes tous ses assassins. C'est-à-dire que l'homme est responsable de la mort de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'avait plus besoin de croire en lui?
Alors, la question, c'est que, alors si vous remarquez au début de ce paragraphe, Nietzsche écrit que le démon arrive donc sur la place du marché où se trouvaient beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire que Nietzsche arrive dans une société ou sur une place.
Ah, c'est Nietzsche le démon.
Non, pardon, Nietzsche, vous voyez.
Alors ça, ah oui, ça, intéressant.
Non, non. Oui, oui, non, les lapsus sont toujours plus bêtes que ce que nous pensons.
Pas sûr.
Oui, enfin, en tout cas, au départ, Nietzsche avait le projet d'introduire Zarathoustra à ce moment-là. Ouais. C'est ensuite qu'il change et qu'il dit le démon. Bon, il faut laisser le temps. Pourquoi? Parce qu'on y reviendra peut-être. Zarathoustra, si vous vous rappelez le prologue de Zarathoustra, pour Zarathoustra, il est acquis que Dieu est mort. Et il renonce même à l'annoncer au vieux saint qu'il rencontre dans la forêt, qui est un ermite, et qui n'a donc pas entendu que Dieu est mort. Mais les gens sur la place du marché ne réagissent pas à la question de la mort de Dieu, qui n'est plus la grande nouvelle que va annoncer Zarathoustra. Mmh. Ce que va annoncer Zarathoustra, c'est la nécessité de surmonter l'homme, hein, donc l'enseignement de surhumain.
Donc dans le livre qui va suivre le Gai Savoir, ainsi parlait, voilà, Zarathoustra.
Voilà, donc là, il y a vraiment un décroché. Mais revenons à cette idée de, d'une annonce faite à une collectivité d'athées, d'athéistes, donc. Vous demandiez si c'était les hommes qui l'avaient tué. Le fait est, et ça, Nietzsche n'est pas le premier à le dire, que l'image « Dieu est mort » veut dire en un premier sens. Et on verra peut-être que c'est pas le seul sens, mais il y a un sens traditionnel qu'on trouve et que Nietzsche trouve déjà chez Heinrich Heine. Dans son histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne, donc en 34, je crois, Heine écrit ça en français pour les Français. Heine dit que Dieu est mourant en Europe, parce qu'il parle de la généralisation de l'athéisme en Europe. Généralisation en pratique, c'est-à-dire que s'il y a encore une certaine foi de convention sociale, en tout cas, la morale elle-même voit l'agonie de Dieu. Donc ça, c'est une vieille histoire. Nietzsche est extrêmement influencé et admiratif de Heine. Donc, effectivement, on peut dire que Dieu est mort parce qu'il y a de plus en plus d'athées. En même temps, d'athéistes. Chaque fois, on entend d'athées autrement. Mais ce démon ne viendrait pas annoncer aux athées que Dieu est mort si les athées savaient qu'il l'avait tué. Donc, il se passe quelque chose de plus profond dans cette mort de Dieu, qui est en réalité, et c'est déjà le fond du problème, c'est les conséquences de la dévaluation de toutes les valeurs que soutenait la croyance en Dieu.
C'est ça, donc le deuil à faire n'est pas tant de Dieu lui-même, puisque de toute façon, les athées par définition n'y croyaient pas, que la conséquence qu'entraîne la mort de Dieu, qui est celle d'une certaine perte ou d'une reconfiguration des valeurs. Le terme n'a pas encore été prononcé cette semaine, Dorian Astor, de valeurs. Alors faut
vraiment
aidez-nous.
Est-ce possible?
Mais oui, on vous attendait, tel le démon. Dites-nous ce que sont l'importance qu'ont les valeurs pour Nietzsche et en quoi la mort de Dieu change complètement nos valeurs.
Oui, alors un mot en préalable, c'est que de fait, la question de l'existence ou de la non-existence de Dieu n'est pas une question pour Nietzsche. Ça n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'il ne s'ajoute pas à toute l'histoire de la philosophie qui a tenté de produire parfois avec brio des preuves de l'existence de Dieu ou des preuves de la non-existence de Dieu. Il ne s'agit pas d'une question de savoir si Dieu est ou si Dieu n'est pas. Nietzsche est un pragmatique ou un pragmatiste avant l'heure. Une chose est vraie par ses conséquences. C'est-à-dire que la religion et le concept de Dieu ont une efficacité propre et évidemment extrêmement forte puisqu'il s'agit de la configuration, de la plasticité même de la culture. Et donc la question de Dieu n'est jamais celle d'une entité, mais celle d'un travail de la culture. Et c'est pour ça que Nietzsche a besoin et aura de plus en plus besoin de produire des généalogies. Dans le Gai Savoir, on a origine de la connaissance, origine de la religion, origine, provenance. Donc ça, ce sont des questions extrêmement importantes. Et la question des valeurs, c'est évidemment celle de ces préférences fondamentales, comme dit Patrick Votling, que vous avez reçu lundi, je crois.
Tout à fait.
Enfin, je sais, en fait, ouais. je l'ai écouté. Donc, ces préférences fondamentales, qui sont en réalité instinctives, qui font partie de nos conditions de vie et qui n'ont encore rien à voir avec la question de la vérité ou de la fausseté. Bon. En tout cas, ces préférences fondamentales s'imposent collectivement dans le développement d'une culture. C'est-à-dire qu'elles sont incorporées, c'est-à-dire qu'elles transforment non seulement les rites, les gestes, les réflexes, mais les corps, l'affectivité et la santé même des membres d'une société. Et la valeur est donc une force plastique de l'histoire ou du développement des sociétés. Ce dont Nietzsche se rend compte, c'est que il va évidemment produire une généalogie de la morale plus que de la religion d'ailleurs. Il parle à deux reprises dans le Gai Savoir. Il y a deux paragraphes qui s'appellent de l'origine de la religion ou de l'origine des religions. J'aimerais y revenir tout à l'heure. En tout cas, ce dont il se rend compte, c'est que ce qu'il faut faire, c'est une généalogie de la morale, c'est-à-dire des présupposés axiologiques, des présupposés de valeurs qui ont informer ou donner forme à une culture. Dans ce cas, à notre culture, celle dont nous sommes aujourd'hui le résultat et à qui le démon annonce, messieurs, dames, nous avons tué Dieu, c'est-à-dire nous avons tué ce qui faisait le fond même de nos propres valeurs, pour le dire très vite, judéo-chrétienne. Voilà.
Mais vous avez
même
pris
gréco-judéo-chrétienne.
Ouais. Vous avez pris soin, Dorian Astor, de distinguer Dieu de la religion. Justement. Mmh. Est-ce à dire, du coup, que le constat que fait le démon de la mort de Dieu dépasse largement celui de la fin ou de la déperdition de la religion dans la société dans laquelle vit ce démon? Vous voyez, c'est deux questions complètement différentes, en fait, si je vous comprends bien. C'est-à-dire que le constat que fait Nietzsche, c'est celui des conséquences qu'entraîne la mort de Dieu et des conséquences sur la culture elle-même. La religion n'est finalement qu'une partie de ces conséquences.
Absolument, absolument. Non seulement elle n'est qu'une partie, mais elle est presque un masque d'autres problèmes plus profonds. C'est-à-dire que, justement, on parlait de ces paragraphes sur l'origine de la religion. Mmh. Et en fait, Nietzsche répond deux temps, hein, au paragraphe 151 et ensuite au paragraphe 353. Il y revient. Dans le premier de ces deux paragraphes, 151, il dit « Attention, le besoin métaphysique n'est pas à l'origine des religions ». Hein, de la même manière que Freud va nier le sentiment océanique, il n'y a pas un besoin métaphysique de totalité, d'absoluité, de vérité à l'origine des religions. Il dit au contraire, c'est au moment où le sentiment religieux s'affaiblit que le monde va commencer à devenir métaphysique, par un embarras de l'intellect, ce qui est une idée absolument extraordinaire. Bon, mais qu'appelle-t-il l'affaiblissement du sentiment religieux ? Il appelle affaiblissement du sentiment religieux l'anéantissement progressif des représentations imaginaires d'un autre monde, quel qu'il soit, surmonde, sous-monde, arrière-monde.
Ça, c'est une expression très importante pour Nietzsche, celle de l'autre monde.
De l'autre monde ou les arrière-mondes dans Zarathoustra, c'est extrêmement important. Le problème de la religion, c'est d'abord un problème gnoséologique, c'est un problème de la théorie de la connaissance. C'est-à-dire que la religion, avant d'être un instinct ou un sentiment, ce sont des représentations. Et ce sont des représentations imaginaires. Et Nietzsche expliquera longuement pourquoi nous avons des représentations imaginaires. Parce que toute représentation est forcément imaginaire. À cause de nos perspectives limitées, cherchant à dominer le monde, cherchant à se rassurer d'une peur d'exister, etc. Bon. En tout cas, Dieu fait partie des représentations imaginaires. C'est pour ça qu'il n'est pas un problème. C'est-à-dire que dès le début pour Nietzsche, Dieu, comme personnage, fut-il trinitaire ou fut-il devenu un concept très abstrait dans les philosophies modernes, Dieu est une représentation imaginaire, point. Donc la question n'est pas là, la question est de savoir ce que cette représentation imaginaire produit comme sentiment, sentiment religieux, affaiblissement du sentiment religieux, sentiment métaphysique, rapport à la connaissance, etc. Et que dit Nietzsche de la religion par ailleurs ? Donc ça c'est son deuxième paragraphe sur l'origine des religions, le 353, il dit l'origine de la religion est très simple. C'est une discipline de vie et d'interprétation des conditions d'existence imposée par des législateurs, par des fondateurs de religion, sur une collectivité, sur un troupeau. À quoi sert la religion ? À se protéger du monde et, dit Nietzsche, à vaincre le monde. Donc, on commence à voir les conséquences de la religion, à vaincre le monde, à le dénigrer, à placer des valeurs au-dessus de l'existence, de l'ici-bas, du corps, des passions, de tout ce qui a été dénigré, notamment et au plus haut point par le christianisme. Donc on voit comment ça fonctionne. Il y a d'un côté une discipline, ce que Nietzsche appelle un élevage, la religion est un des modes d'élevage du troupeau humain, hein, pour employer son vocabulaire qui choque toujours beaucoup, mais qui est pourtant extrêmement cohérent pour plein de raisons. Et ensuite, il dit, attention, le problème de Dieu n'est pas un problème moral ou métaphysique, c'est d'abord un problème de représentation. Et nos représentations sont fausses. Ah, pourquoi elles sont fausses ? Pour une raison très simple, c'est que nous avons besoin de nous tromper. Et là, on revient à l'origine morale de la connaissance.
C'est ça.
Ce que dira Nietzsche.
Donc, en fait, si je vous comprends bien, Dorian Astor, c'est que ce Dieu qui est mort, comme dirait le philosophe Pascal, c'est pas le dieu des croyants, c'est le dieu des philosophes. C'est le dieu, c'est l'idée de totalité, c'est l'idée d'origine, c'est une certaine idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Qui n'est plus.
Oui, absolument. Alors en fait, c'est les deux. Le dieu de la, c'est d'abord la foi qui s'affaiblit, et ensuite la croyance en la métaphysique elle-même. Ça, c'est quelque chose que Heine déjà disait. J'en parlais tout à l'heure. Ça se fait progressivement. Nietzsche le dit aussi quelque part dans un paragraphe dont j'ai oublié le chiffre. Mais en tout cas, oui, on perd d'abord la foi. Et on perd la foi pour de bonnes raisons, pour des questions de probité. Et de méfiance, c'est-à-dire qu'on commence à devenir, pour ainsi dire, un esprit libre lorsqu'on perd la foi, on devient un sceptique. Nietzsche associe souvent le mot de scepticisme et de probité. Bon, et cette probité, elle est typiquement critique, scientifique, pensée des Lumières, etc. Et peu à peu, le criticisme lui-même, hein, Nietzsche dira quelque part que Kant est déjà un de ceux qui précipite la mort de Dieu. C'est-à-dire que même si Kant revient à la loi morale et à la religion plus tard, en tout cas dans la critique de la raison pure, il engage une vaste critique de la connaissance elle-même. Or, si il n'y a plus aucun dogmatisme, aucune foi possible dans l'existence de l'en-soi ou de l'absolu, hein, qu'on ne peut rien en dire, Dieu continue à s'effondrer.
C'est donc l'idée même que nous nous faisons, pas simplement de Dieu, mais de la connaissance et de ce que nous appelons même le monde qui change. Je vous propose qu'on écoute un autre texte qui est en lien avec celui qui a ouvert l'émission, ce paragraphe 125 que nous commentons depuis le début de cette émission d'Ariane Astor, qui est un texte là aussi magnifique, c'est le paragraphe 109, et qui reprend cette formule « gardons-nous ». C'est Nietzsche qui nous met en garde contre une certaine tentation qui est la nôtre de, par exemple, tenir le monde pour un être vivant. Écoutez.
Hüten wir uns. Hüten wir uns zu denken, dass die Welt ein lebendiges Wesen sei. Gardons-nous. Gardons-nous de penser que le monde est un être vivant. Vers où s'étendrait-il? De quoi se nourrirait-il? Comment pourrait-il croître et augmenter? Nous savons à peine ce qu'est l'organique, et nous réinterpréterions l'indiciblement dérivé, tardif, rare, fortuit que nous percevons aujourd'hui sur la croûte de la terre comme l'essentiel, l'universel, l'éternel, ainsi que le font ceux qui qualifient le tout d'organisme. Cela suscite en moi le dégoût. Gardons-nous déjà de croire que le tout est une machine. Il n'est certainement pas construit pour atteindre un but. Nous lui faisons bien trop d'honneur en lui appliquant le terme de machine. Gardons-nous de présupposer absolument et partout quelque chose d'aussi bien conformé que le mouvement cyclique des étoiles les plus proches de nous. Un simple coup d'œil sur la Voie lactée suscite le doute et nous fait nous demander s'il n'existe pas là des mouvements bien plus grossiers et contradictoires. Et de même des étoiles suivant d'éternelles trajectoires de chutes rectilignes et d'autres choses du même ordre. L'ordre astral dans lequel nous vivons est une exception. Cet ordre, et la durée considérable dont il est la condition, a à son tour rendu possible l'exception des exceptions, la formation de l'organique. Le caractère général du monde est au contraire de toute éternité chaos, non pas au sens de l'absence de nécessité, mais au contraire, au sens de l'absence d'ordre, d'articulation, de forme, de beauté, de sagesse, et de tous nos anthropomorphismes esthétiques, quelques noms qu'on leur donne.
Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, c'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions sur le gai savoir de Friedrich Nietzsche, aujourd'hui en compagnie du philosophe Dorian Astor, qui a dirigé un dictionnaire Nietzsche paru l'an dernier aux éditions Lafon, ainsi que qui est aussi l'auteur de « Deviens ce que tu es pour une vie philosophique », ainsi que « Pourquoi nous sommes Nietzschéens ». Dorian Astor est avec nous en duplex depuis Berlin. Nous avons commenté la mort de Dieu annoncée par le démon dans un paragraphe célèbre du Gai Savoir, dans le texte que nous venons d'entendre lu par Georges Clès. Nietzsche nous met en garde, il nous met en garde contre des mauvaises appréhensions de ce qu'on appelle le monde, l'idée que nous nous faisons du tout. Si nous nous trompons sur ce qu'est le monde, à savoir si nous le prenons pour un être vivant ou une machine, eh bien cela suscite en Nietzsche le dégoût, nous dit-il Dorian Astor. C'est assez drôle de voir que Nietzsche n'oublie jamais les métaphores physiologiques qui sont très parlantes, bien plus que certaines images intellectuelles.
Absolument. Oui, c'est un texte extrêmement important pour plusieurs raisons, et je commence par la dernière, enfin celle qui vient en dernier dans le texte, c'est que toutes ces manières d'interpréter le monde, Nietzsche les appelle précisément les ombres de Dieu.
Les ombres de Dieu.
Quand donc toutes ces ombres de Dieu cesseront-elles de nous assombrir ? Et il poursuit, quand aurons-nous totalement dédivinisé la nature ? Donc ce paragraphe, qui est le second du le deuxième paragraphe du livre 3, et qui suit juste avant une autre forme d'ombre de Dieu, celle de Bouddha dans la caverne, qui est une variation ou une préparation sur l'annonce de la mort de Dieu. Ce deuxième paragraphe est placé ici à dessein par Nietzsche, évidemment, il sait très bien ce qu'il fait, et il pose la question, au fond la question cosmologique. En ce sens, il rappelons quand même qu'il se situe dans la lignée et dans l'héritage de Kant. Kant qui a toujours montré que toute connaissance du monde, toute cosmologie était vouée à produire des antinomies de la raison, c'est-à-dire des contradictions insurmontables. Bon. Donc, ça c'est vraiment une question extrêmement importante, la question de la cosmologie. Et Nietzsche va décliner, au fond, toutes les interprétations qui ont eu cours en philosophie. Alors, effectivement, le monde comme être vivant, qui croit, qui se renouvelle, hein, une espèce d'organicisme du cosmos. Il n'est pas non plus une machine, donc c'est une critique du mécanisme scientifique. Il n'y a pas de loi, pas de but, pas d'ordre. Et dit-il à un certain moment, dit Nietzsche à un certain moment, il n'y a même pas de hasard. Mmh. Hein, il faut encore qu'il y ait un ordre pour que on puisse percevoir un hasard.
C'est du chaos, dit-il. C'est du chaos. Le caractère général du monde est au contraire de toute éternité chaos.
Voilà, du chaos. Et que veut dire le chaos ? Ça veut dire, avant toute chose, que le sens n'est pas donné. Et ça, c'est très important pour toute la démarche de Nietzsche et ce qu'il compte, ce qu'il entend faire dans le Gai Savoir, y compris à partir de cette idée de la mort de Dieu, c'est que un sens, ça se donne, ça s'invente, ça se construit, ça s'appelle une civilisation.
La civilisation, c'est ce qui essaie de construire du sens.
Ce qui essaie de construire du sens, et depuis la naissance de la tragédie, généralement, quel sens ou quel type de sens, la justification ou la transfiguration de la souffrance. Mmh. Voilà. Donc, il est clair que le monde étant précisément chaos, nous avons, nous, exception des exceptions, dit Nietzsche, toutes les chances de souffrir, de devoir craindre le monde, voire de périr du monde lui-même. Donc, toutes ces interprétations du monde sont déjà une manière de diviniser la nature, et Nietzsche le dit haut et fort, il le redira, il faut d'abord dédiviniser la nature, c'est-à-dire lui enlever tout présupposé de sens, à la fois de sens comme signification et de sens comme finalité. Hein, le finalisme est une des théories qui est rejetée dans le paragraphe qui a été lu. Et c'est-à-dire ouvrir à nouveau, dédiviniser la nature, c'est-à-dire ne pas présupposer le sens, mais au fond mettre à plat, faire table rase et dire voilà, nous n'avons effectivement affaire qu'à du chaos. Mmh. Mais ce chaos passe son temps à produire de l'ordre. Il produit de l'ordre. Le monde ou l'humain ou la pensée ne sont pas des expressions ou des conséquences du sens donné au monde par Dieu ou par lui-même ou par mère nature ou par qui sais-je. C'est que l'homme est précisément ce qui met de l'ordre fatalement et pour des questions de survie au chaos du monde.
Mais c'est en ce sens que la mort de Dieu peut être une bonne nouvelle, puisqu'elle attribue à l'homme une grande responsabilité, puisque le monde n'a aucun sens, qu'il est de toute éternité chaos, qu'il n'y a même pas de hasard, disiez-vous, c'est-à-dire vraiment aucun ordre, alors revient à l'homme la responsabilité, ou du moins la possibilité, de créer ce sens, cette forme, cette beauté.
Absolument. Et on en revient, c'est-à-dire, comme vous dites, cette possibilité. Et on en revient à ce qu'on disait au tout début, l'homme est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il y a deux possibilités, nous disions tout à l'heure, soit la tragédie, soit la comédie ou la parodie, c'est-à-dire soit vraiment le pessimisme, le nihilisme, j'emploie le terme, je voudrais y revenir tout de suite, soit d'un côté donc l'auto-anéantissement de l'homme, à vrai dire, soit le début d'une nouvelle gaieté d'esprit, celle dont nous parlions tout à l'heure. Et ça n'est pas gagné. Ça n'est pas gagné et on voit bien, et c'est tout le propos de Zarathoustra, que cette croisée des chemins est source d'une immense détresse. J'ai beaucoup travaillé sur la détresse chez
Nietzsche. Oui, c'est le titre de l'un de vos livres, La détresse du présent.
Merci de le rappeler. Là, je vous ai un peu fait fishing for compliments.
Oui, mais ça me donne l'occasion de rappeler ce livre.
C'est gentil. En tout cas, Zarathoustra est animé par une grande détresse, c'est-à-dire ce que j'ai à enseigner, c'est-à-dire l'autodépassement de l'homme vers de nouvelles formes de vie, qu'il appellera le surhumain, mais qu'on peut appeler aussi, que Nietzsche appellera dans « Par-delà bien et mal », la philosophie de l'avenir, c'est-à-dire renversement et reconfiguration, recréation de nouvelles valeurs, eh bien, c'est pile ou face. Ou bien nous prenons le risque, nous avons le courage, nous avons la probité, tout un vocabulaire extrêmement important chez Nietzsche, celui du courage, de la mise en danger du philosophe. Ou bien nous avons le courage de marcher sur les débris ou sur le cadavre de Dieu pour reconstruire et tenter de produire une culture plus élevée, c'est-à-dire plus conforme aux besoins de la vie, c'est-à-dire non pas hostile à la vie, mais favorable à la vie, c'est-à-dire à l'augmentation de puissance. Bon, je ne développe pas ici. Soit on a le courage de ça, soit nous arriverons. Alors, il y a deux formes d'auto-anéantissement. Il y a une espèce d'auto-anéantissement, apocalyptique, c'est-à-dire vraiment l'autodestruction physique de l'homme sont des questions qu'on peut se reposer aujourd'hui et du monde avec lui. La question de notre puissance de détruire le monde sont des questions qui sont
actuelles. Vous pensez
actuelles.
À quoi ?
Je pense aux problèmes écologiques, au sens très large, au sens où... au sens où, par exemple, puisque j'ai lu son dernier livre « Où allons-nous atterrir ?», je crois, je pense à Bruno Latour, ce qu'il dit n'est pas le seul. Il y a un certain nombre de philosophes, Latour en est un, qui alarment et les politiques et les collectivités sur la réalité du risque de destruction planétaire. Voilà. C'est un autre sujet, mais on voit bien que ceux qui aujourd'hui tirent cette sonnette d'alarme, et les scientifiques les premiers, il faut quand même le dire, se retrouvent à peu près devant la même perplexité et la même raillerie que le démon ou que Zarathoustra sur la place du marché.
C'est vrai que c'est le revers de cette responsabilité, je ne sais pas si le terme est bon, de l'homme après que Dieu soit mort. C'est-à-dire que oui, lui revient la tâche de créer, de donner forme et de créer de la beauté, mais lui revient aussi, non pas la tâche, mais la possibilité de détruire ce qu'il a devant lui, en effet.
Oui. Alors, il y a deux formes de destruction. Il y a la destruction du grand pessimisme antique. Ça, je vous renvoie au début de la naissance de la tragédie.
Où le premier livre de Nietzsche.
Le premier livre de Nietzsche, où Nietzsche dit, attention, on parle toujours de la sérénité des Grecs. Pas du tout, c'était le grand pessimiste. C'est le grand tragique avant même qu'ils inventent la tragédie. Et s'il n'y avait pas eu la tragédie, s'il n'y avait pas eu le Dionysos et Apollon, pour le dire vite, il y aurait eu, dit-il, de grande vague de suicides par compassion, de suicides collectifs. Nietzsche parle de cette, présente cette image d'une telle conscience de l'absurdité des choses que, comme le font certaines sectes, l'humanité se suiciderait collectivement devant tant d'absurdités. Et puis, il y a une autre forme de destruction beaucoup plus perverse, et sans doute qui correspond bien davantage et à la situation de l'Europe à l'époque de Nietzsche et à notre situation aujourd'hui, c'est la situation que Zarathoustra rencontre quand il descend de sa montagne. Il est face à qui ? Il est face à une collectivité qui menace, ou un type d'humain qui menace de devenir ce que Zarathoustra appelle le dernier homme. C'est-à-dire une espèce de petites choses avec des petites vertus, des petits bonheurs, des petites souffrances, tout en petit, hein, dit Nietzsche, c'est-à-dire une espèce de rabougrissement général des valeurs constitutives de la civilisation. Et Nietzsche résume ces valeurs, sécurité, bonheur et égalité. Nous sommes tous pareils, nous n'avons rien à craindre et nous sommes heureux. Voilà.
Ce qui paraît un programme tout à fait raisonnable et enviable, non ?
Oui, sans aucun doute. En tout cas, pas pour Nietzsche.
Oui, c'est ça.
Pourquoi ? Parce que le bonheur est essentiellement... quelquefois, Nietzsche le dit que le bonheur est essentiellement individuel. Donc, le bonheur ne peut pas être une valeur collective. Ça, c'est une chose. Ensuite, l'égalité nie et écrase les différences nombreuses, non seulement d'individus, mais de communautés, de cultures, etc. Mmh. L'égalité abstraite, j'allais dire, écrase la multiplicité. Et la sécurité, alors là, la sécurité, évidemment, nous souhaitons tous la sécurité, mais Nietzsche conserve ce geste un peu héroïque qu'il trouve et chez les grands conquérants et chez les artistes et chez les philosophes, celui du courage et de risquer sa vie au sens propre comme au sens figuré. Nietzsche ne cesse de répéter dans son œuvre qu'importe de moi, qu'importe de nous. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de gratuité, de générosité, de non-attachement à la personne individuelle, de ceux qui sont portés par de grands buts, de grands idéaux. Et Nietzsche estime que l'individualisme contemporain, qui paradoxalement est un individualisme grégaire, puisque l'égalité est la définition universelle, ou en tout cas collective du bonheur, égalise tout le monde et écrase toute possibilité d'épanouissement de l'exception, de la chose rare, de l'événement, de la nouveauté.
C'est cette lecture quasiment antidémocratique de Nietzsche, en fait. C'est ça qui lui a valu d'ailleurs beaucoup d'interprétations qui peut-être ont conduit à des contresens. C'est-à-dire que l'égalité nuit à la singularité, à des lourdes conséquences politiquement.
Bien sûr, en même temps, dans les régimes totalitaires, sous les quelques tyrans, tout le monde est égal aussi. Hein. La question de l'égalité, savoir si c'est l'égalité, une égalité aristocratique, une égalité entre pairs, comme Nietzsche le dit quelquefois, ou si c'est une égalité d'esclaves.
Il est assez intéressant de voir que...
C'est au-delà du régime politique. Pardon, c'est moi, je vous en prie.
Il est assez intéressant de voir que les multiples conséquences que pointe Nietzsche dans ce troisième livre du Gai Savoir de la mort de Dieu, alors là on a vu le paragraphe 109 ensemble, hein, gardons-nous de penser que le monde est un être vivant, et toutes les mauvaises interprétations induites par l'idée même de monde. En fait, Nietzsche procède beaucoup de cette manière-là, dans le Gai Savoir et dans ce livre en particulier, pour essayer de pointer l'absurdité qu'il y a à tenir pour sage ou vrai des choses qui en fait relèvent de l'illusion. Et je me permets d'en lire un très court extrait du paragraphe 145, qui est peu connu et qui à mon sens trouve un écho aujourd'hui très très fort. Il dit ceci, il dit « La consommation excessive du riz pousse à l'usage de l'opium et de stupéfiants, tout de même que la consommation excessive de pommes de terre pousse au schnapps. Mais son effet ultérieur plus subtil est d'incliner à des manières de penser et de sentir qui agissent comme des narcotiques. Or, il se trouve que les promoteurs de ces manières-là de penser et de sentir, tels les docteurs hindous, prônent précisément une diète purement végétarienne dont ils voudraient faire la loi à la masse. Ils veulent ainsi provoquer et augmenter le besoin qu'ils sont eux-mêmes en mesure de satisfaire. » C'est par l'exemple des végétariens qu'ils pointent un des travers qu'il y aurait à se prendre soi-même comme étant le but et la fin de sa propre existence. Dorian Astor.
Oui, absolument. Et par ailleurs, on voit que Nietzsche ne répugne pas du tout aux explications extrêmement concrètes.
Hein, mais c'est ça.
Consommation de riz ou de bière, il accuse beaucoup toute la métaphysique allemande de dépendre de l'estomac alourdi par la bière. Donc voilà, ce sont des conditions de vie et au fond, on a toujours les idéaux ou les législations qui correspondent à ce dont on est capable. D'où cette nécessité, physiologiquement capable ou psychophysiologiquement, psychosomatiquement, j'allais dire capable, et au niveau évidemment d'une culture, au niveau collectif, puisque les exceptions, y compris surhumaines, sont partout et à toute époque possible, dit Nietzsche quelque part. Donc ces considérations physiologiques, c'est exactement ce que pointe Nietzsche dans le danger de la culture contemporaine. Nous avons parlé du nihilisme, il y a un terme que nous n'avons pas encore employé, celui de décadence.
Oui.
Que Nietzsche utilise d'ailleurs en français un peu plus tard. C'est pas encore un terme qu'il utilise à l'époque du Gai Savoir, mais en tout cas la décadence, le problème de la décadence va devenir vraiment son problème, c'est-à-dire l'affaiblissement des forces plastiques psychophysiologiques d'une culture qui évidemment menace une culture de sombrer. Et on voit bien que l'une des réponses extrêmement dramatisées de Nietzsche se trouve dans Zarathoustra, c'est-à-dire l'urgence pour l'homme de se surmonter, c'est-à-dire de ne pas se contenter, j'allais dire, de ses petites valeurs ou de sa petite puissance ou de sa petite individualité, mais de toute puissance qui se maintient est déjà une puissance en déclin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homéostasie de la puissance. La puissance, elle croît ou elle décline. Point. Et Nietzsche se rend bien compte que la dévaluation générale des valeurs, comme conséquence de ce qu'il appelle donc la mort de Dieu, n'amène pas spécialement à de grandes catastrophes apocalyptiques, mais simplement à une espèce de léthargie, hein, d'apathie, d'anesthésie. Hein, dans le paragraphe que vous citiez, Nietzsche parlait de narcotique. Mmh. C'est ce qu'il reprochera à Wagner, hein, d'endormir les foules par sa musique hypnotique et narcotique. Eh bien, le danger de s'éteindre doucement ou pire encore, dirait Nietzsche, de vivoter, hein, c'est-à-dire simplement d'essayer de se conserver. Or, l'instinct de conservation a été maintes fois et à plus, enfin, dans énormément de textes, critiqué par Nietzsche comme seulement la moitié de la compréhension du vivant, évidemment.
On pourrait croire, puisque Dieu est mort, on a commencé avec cette idée, puisque l'idée que nous nous faisons du monde est bien souvent erronée parce que ces conceptions du monde ne sont que les ombres de Dieu, c'est la formule de Nietzsche, on pourrait croire que seul peut nous sauver la connaissance, le savoir, ce qui nous permettrait d'avoir un rapport lucide au monde, qui serait fait non pas d'illusions, mais de vérité, de connaissance vraie. Or, il n'en est rien, puisque la connaissance elle-même, si l'on ne s'interroge pas sur son origine, n'est pas forcément vecteur de vérité. Je vous propose qu'on entende un troisième texte de Rienastor dans lequel Nietzsche explique cette idée, c'est le paragraphe 110 du troisième livre du Gai Savoir, lu par Georges Clès.
La force des connaissances ne tient pas à leur degré de vérité, mais à leur ancienneté, au fait qu'elles sont incorporées, à leur caractère de condition de vie. Là où vivre et connaître semblait entrer en contradiction, on n'a jamais livré de combat sérieux. La contestation et le doute passaient alors pour de la folie. Les penseurs d'exception qui, malgré cela, comme les Éléates, établir et défendre le contraire des erreurs naturelles, crurent qu'il était possible de vivre également ce contraire. Ils inventèrent le sage, entendu comme l'homme de l'immutabilité, de l'impersonnalité, de l'universalité, de l'intuition, comme un et tout en même temps, doué d'une faculté propre pour cette connaissance renversée. Ils étaient animés de la croyance que leur connaissance était en même temps le principe de la vie. Mais pour pouvoir affirmer tout cela, ils durent se tromper sur leur propre état. Ils durent s'attribuer illusoirement impersonnalité et durée sans changement. Se méprendre sur l'essence de l'homme de connaissance. nier la violence des pulsions dans le connaître, et de manière générale, concevoir la raison comme activité totalement libre ayant sa source en elle-même. Ils refusèrent de voir qu'eux aussi étaient parvenus à leurs principes en contredisant ce qui est valide ou en aspirant au repos ou à la possession exclusive ou à la domination. Le développement affiné de la probité et du scepticisme finirent par rendre également ces hommes impossibles. Leur vie et leur jugement aussi s'avérèrent dépendre de ces antiques pulsions et erreurs fondamentales de toute existence sensible qui remonte à la nuit des temps.
Il nous reste très peu de temps, Dorian Astor, pour commenter ce texte, moins de 3 minutes pour tout vous dire, mais quand même, cette première phrase qui, une fois qu'on l'a lue, occupe l'esprit, parce qu'elle est troublante, la force des connaissances ne tient pas à leur degré de vérité, mais à leur ancienneté.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, plus une connaissance est ancienne, plus elle a de valeur. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la vérité alors.
Sauf que la vérité est précisément l'histoire de ces incorporations. Hein. La question finale du paragraphe qui a été lu, c'est jusqu'à quel point la vérité supporte-t-elle l'incorporation. Et on voit avec l'exemple des Éléates, mais au fond, tout fondateur de système, de philosophie, de sagesse ou de religion, au fond, part toujours comme un hors-la-loi. Nietzsche en parle beaucoup dans Aurore. En fait, les idées nouvelles, les tentatives nouvelles, viennent toujours de hors-la-loi, c'est-à-dire de nous en parlions tout à l'heure, de sceptiques, de critiques, de tentateurs, d'expérimentateurs, qui disent « Ah, j'essaye de produire une différence, un pas de côté par rapport aux valeurs en place, et je vois ce que ça fait. » Et Nietzsche dit cette chose extraordinaire, c'est que au début, il parle donc des Éléates, la connaissance, en réalité les abstractions, repos, permanence, identité, liberté de la raison, etc., sont des abstractions qui sont sans force. Hein, la vérité s'accroît avec la force qu'elle gagne, c'est-à-dire la force de conviction, la force d'incorporation, c'est-à-dire comment une forme, et je dirais une valeur, devient, comme Nietzsche le dit dans ce paragraphe, une condition de vie. Et ça prend du temps, ça prend un temps considérable. Ce qui est extraordinaire dans ce texte-là, c'est que Nietzsche décrit le combat entre les erreurs vitales et la passion de la vérité ou la pulsion de vérité. Donc ça, c'est une véritable généalogie. La vérité va peu à peu, tardivement et lentement, devenir une pulsion. Nietzsche parle ailleurs de la passion de la connaissance. Ça n'était pas évident puisque, au fond, au début de son hominisation, l'homme avait besoin de croire à tout ce qui lui permettait de survivre et de croître. C'est ce qu'on appelle les erreurs vitales. Il nous en reste encore beaucoup. Et Nietzsche, dans les paragraphes suivants, va absolument déconstruire tous les présupposés logiques, la causalité, l'identité, toutes ces catégories logiques, montrant combien elles ressortissent à la peur et à la survie dans des conditions sauvages. Bon. Mais en tout cas, peu à peu, la pulsion, les abstractions, qui sont au fond anti-empiriques, toujours, vont s'imposer et devenir une pulsion, un désir fondamental. Et la vérité va peu à peu, et c'est là tout le point, se retourner contre les conditions d'existence elles-mêmes. La vérité va devenir supérieure à la vie. Et ce sera tout le point, hein, toute la difficulté et tout le but de Nietzsche lorsqu'il critique la vérité et lui substitue le problème beaucoup plus fondamental des valeurs, c'est-à-dire des conditions d'existence fondamentales.
Eh bien, merci à vous, Dorian Astor, de nous avoir éclairé aujourd'hui sur ce troisième livre du Gai Savoir.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous étiez avec nous en duplex depuis Berlin et que vous êtes l'auteur de Nietzsche, La détresse du présent, aux éditions Gallimard, paru en poche depuis, également du Dictionnaire Nietzsche, un ouvrage collectif que vous avez dirigé, paru chez Lafont l'an dernier.
Du temps que régnait le grand pan, les dieux protégeaient les ivrognes, un tas de génies titubants, au nez rouge, à la rouge trogne, dès qu'un homme vidait les cruchons, qu'un sac à vin faisait carousse, il venait en bande à ses trousses compter les bouchons. La plus humble piquette était alors bénie, distillé par Noé, Silène et compagnie. Le vin donnait un lustre au pire des minus, et le moindre pochard avait tout de Bacchus. Mais se touchant le crâne, en criant, j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus. Est arrivé, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui, ça et là, les gens boivent encore, et le feu du nectar fait toujours luire les trognes, mais les dieux ne répondent plus pour les ivrognes. Bacchus est alcoolique et le grand Pan est mort. Quand deux imbéciles heureux s'amusaient à des bagatelles, un tas de génies amoureux venaient leur tenir la chandelle. Du fin fond des Champs-Élysées, dès qu'ils entendaient un « je t'aime », ils accouraient à l'instant même compter les baisers. La plus humble amourette était alors bénie, sacrée par Aphrodite, Eros et compagnie. L'amour donnait un lustre au pire des minus, et la moindre amoureuse avait tout de Vénus. Mais se touchant le crâne, en criant, j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus. Est arrivé, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui, ça et là, les cœurs battent encore, et la règle du jeu de l'amour est la même, mais les dieux ne répondent plus de ceux qui s'aiment. Vénus est faite femme et le grand Pan est mort. Et quand fatal sonnait l'heure de prendre un linceul pour costume, un tas de génies l'œil en pleurs vous offrait les honneurs posthumes. Pour aller au céleste empire, dans leur barque ils venaient vous prendre, c'était presque un plaisir de rendre le dernier soupir. La plus humble dépouille était alors bénie, embarquée par Caron, Pluton et compagnie. Au pire des minus, l'âme était accordée, et le moindre mortel avait l'éternité. Mais se touchant le crâne, en criant, j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus. Est arrivé, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui, ça et là, les gens passent encore, mais la tombe est hélas la dernière demeure, et les dieux ne répondent plus de ceux qui meurent. La mort est naturelle et le grand Pan est mort.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo, chaque jour, vous partez d'une actualité pour proposer vos réflexions philosophiques. Aujourd'hui, vous vous posez une question qui, dites-vous, est aussi politique que philosophique.
Oui, Adèle, et cette question, c'est comment lutter contre les fake news. Alors, Dorian Astor, qu'on vient d'entendre, était justement intervenu à ce micro en juin dernier sur le sujet Nietzsche et les fake news. Mais depuis juin, il s'en est passé des choses. Il y a deux jours, le mardi 13 février, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a précisé les contours d'une loi contre les fake news. Désormais rebaptisée loi sur la confiance et la fiabilité de l'information, elle va se déplier en trois axes. Alors d'abord, premier axe, la surveillance des réseaux sociaux et des médias sous influence d'un État étranger. 2. Une procédure de référé pour pouvoir bloquer rapidement les fake news. Et 3. La mise en place d'un devoir de coopération des plateformes web, tel que l'avait annoncé lors de ses vœux à la presse le 3 janvier Emmanuel Macron.
J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Comme vous le savez, propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus.
De fait, ces fausses nouvelles sont un problème pour les politiques. Quels moyens politiques ou juridiques employer pour en diminuer la portée, voire les éliminer? Mais elles sont aussi une mine d'or pour les philosophes. Mine d'or, je le précise, ne voulant pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude, évidemment, de leur part. Plusieurs se sont ainsi déjà exprimés sur le sujet, mais parmi toutes ces prises de parole, il faut en distinguer deux vagues. Alors d'abord, il y a eu Dorian Astor, Claudine Tiercelin, Michel Serres, Philippe Huneman et Mathias Girel, qui se sont attachés aux critères de la vérité. Comment distinguer, quand on n'a pas les moyens de le faire et de le savoir, une nouvelle fake, c'est-à-dire fausse et fabriquée, d'une nouvelle vraie qui peut amorcer une autre manière d'approcher un phénomène? Ignorer, est-ce forcément être dans le faux? Comment critiquer et remettre en cause sans pour autant cultiver une attitude permanente de méfiance jusqu'à tomber dans le révisionnisme? Et questionner le concept de vérité, comme l'ont fait de grands philosophes, de Nietzsche à Derrida, comme cela a été interrogé dans plusieurs articles, est-ce nécessairement accepter en retour le mensonge, les fake news et les faits alternatifs? Et puis, il y a eu une deuxième vague, plus récente, faisant suite à l'annonce de légiférer sur les fausses nouvelles, qui a soulevé ces questions. Alors notamment, on a pu lire Chantal Delsol, Jocelyn Benoît, Pierre-Henri Tavoyot et Frédéric Lordon. Qui peut imposer la vérité? À quel titre et comment? Et quelle vérité? Tous les moyens sont-ils bons pour imposer la vérité? La morale et la loi ont-ils un poids et une légitimité pour lutter contre les fake news? Faut-il criminaliser tout ce qui est faux, tous les mensonges? Et jusqu'où prendre des mesures pour lutter contre elles? Peut-il en venir paradoxalement à leur donner une attractivité?
Lorsque la catégorie des fake news quitte ce plan de trivialité et commence à tourner folle sur elle-même, à acquérir une sorte d'autonomie complètement détachée de ce qui lui avait donné naissance, on se voit franchir quasiment des seuils obsessionnels. Si vous voulez, ça prend un caractère d'obsession. Et le fait que c'est un caractère d'obsession est attesté par le simple fait que c'est devenu le mot de l'année, tout le monde dit fake news sur toutes les chaînes, on n'arrête pas d'en parler, de nous tympaniser avec ça. Mais il y a quand même une question à poser. C'est pourquoi faire le mot de l'année avec des choses qui en réalité sont vieilles comme l'espace public, qui sont vieilles comme le débat public. Depuis qu'il y a un espace public, oui, il y a des fausses nouvelles, il y a des rumeurs propagées, il y a des calomnies, il y a de la diffamation, etc., etc.
Tout récemment, le philosophe et sociologue Frédéric Lordon, à l'émission La Grande Table, sur cette même radio, c'était le 19 janvier, pointait, on vient de l'entendre, un autre paradoxe de cette lutte contre les fausses nouvelles. Non seulement les combattre, c'est mettre l'accent sur la nouvelle et non sur le faux, c'est en faire une nouveauté alors qu'elles sont vieilles comme le monde, mais les combattre, c'est aussi leur donner une caisse de résonance et leur offrir des espaces disponibles d'écoute et de parole, c'est les alimenter dans la conduite qu'elles présupposent, celle de la méfiance. Et oui, si celui qui produit des fausses nouvelles se méfie sans cesse, celui qui craint toutes les nouvelles à cause des fake news en vient lui-même à adopter cette attitude de méfiance permanente. Comment donc s'en sortir? Comment donc se confier? Comment donc se méfier à bon compte? C'est-à-dire comment accorder sa foi, sa croyance avec prudence? Cette question, elle est d'abord philosophique et elle s'applique aussi bien aux fake news qu'aux discours politiques qui ont l'air de demander une confiance sans en donner les critères.
Merci beaucoup Géraldine. Avez-vous un ouvrage à nous recommander sur ce sujet?
Oui, Mathias Girel a fait paraître « Science et territoire de l'ignorance ». C'est aux éditions Quai.
C'est noté. Et votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Claire Perriman-Holl qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Maud Markiewicz, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jacques Azubert qui est à la prise de son aujourd'hui, Georges Kless et Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain. Pour les chemins du vendredi, demain je vous proposerai de découvrir le débat enregistré à la Sorbonne samedi dernier dans le cadre d'une journée spéciale organisée par France Culture autour du thème « Sexe et pouvoir ». Nous nous sommes posé une question, le désir peut-il se soumettre à la loi? Et les réponses étaient celles de Laurence Rossignol, Raphaël Antoven et Elisabeth Roudinesco. Un débat à découvrir demain à 10h donc. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie, pour la réécouter en ligne mais aussi la télécharger, la podcaster et l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.